Alors, pour en parler, j'accueille Xavier Ponroy. Bonjour.
Bonjour.
Alors, un an après le mouvement MeToo, la justice et le droit français sont-ils adaptés aux revendications nées de ce mouvement ?
C'est beaucoup de questions qu'on va se poser aujourd'hui, Aurélia. Comment mieux recueillir les plaintes ? Peut-on accélérer les procédures ? Comment prouver une agression même des années après ? Quel type de condamnation ? Comment au mieux accompagner les victimes ? Beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec Alice Santin-Janin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du mouvement et de l'association Solidarité Femmes Milena. Avec nous également Véronique Pigeon, vous êtes avocate au barreau de Grenoble. Et vous travaillez beaucoup.
Bonjour.
Et vous travaillez sur ces questions, notamment avec l'association Stop aux violences sexuelles.
Absolument.
Première question, elle est sur l'actualité du jour, puisque l'Assemblée nationale vient de voter ce matin la possibilité de déposer plainte en ligne. On se doute que l'idée derrière cette loi, c'est le dépôt de plainte, notamment pour les victimes de violences sexuelles. Alice Santin-Janin, c'est un pas dans la bonne direction que vient de prendre l'Assemblée nationale ?
Oui, je trouve que le dépôt de plainte en ligne va quand même, je pense, simplifier la démarche de dépôt de plainte, puisque la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe aussi avant le dépôt de plainte ? Comment c'est difficile d'aller déposer cette plainte-là ? Donc toutes les démarches qui vont faire en sorte de faciliter l'accès à la plainte, c'est une bonne chose. Après, j'attends de voir dans le pratico-pratique comment ça va s'articuler.
Véronique Pigeon, c'est un bon pas, ça aussi c'est...
Il faut toujours attendre de voir ce que donnent les choses dans la pratique et dans la réalité. Jusqu'à présent, les pré-dépôts de plainte, c'est juste une première prise de contact. Hein. C'est simplement, on vous donne après un rendez-vous pour que vous rencontriez quelqu'un. Donc le problème de l'accueil de la personne qui vient se plaindre d'un acte d'agression sexuelle, il restera, même si on a posé sa pré-plainte en ligne, il y a toujours la question de l'accueil.
Et alors justement, en quoi c'est compliqué pour une victime de violence sexuelle d'aller déposer plainte au commissariat ?
Plusieurs choses. La première, c'est la protection de la victime. C'est que dans la plupart des cas, l'auteur est connu de la victime et il faut pouvoir mettre en œuvre des mesures de protection. Donc ces mesures de protection, nous, on les met en œuvre du coup à Solidarité Femmes Milena à travers l'hébergement principalement, qui est la mise en sécurité. Mais on peut pas intervenir dans toutes les situations dans une mise en sécurité. Donc la question de la peur des représailles est quand même quelque chose qui est souvent exposé par les victimes.
Donc il faudrait, dans les commissariats, mettre quoi en place ? Des lieux spécifiques pour que les femmes victimes aillent déposer plainte ?
Oui, vous savez, la réalité quand même, là, du coup, de la plainte en commissariat, c'est se retrouver dans le cadre d'un dépôt de plainte avec parfois un autre bureau à côté d'un autre officier, avec une personne qui porte plainte à côté. Donc voilà, on n'est pas dans un espace vraiment qui favorise la parole. Donc il y a eu quand même des améliorations, notamment faire un très bon travail aussi avec la Brigade de la Famille, qui a d'autres manière d'intervenir, mais voilà, il y a quand même un gros travail, je rejoins Maître Pigeon, il y a un gros travail sur cette notion d'accueil qui est très important, accueillir la parole.
Et vous, oui, vous allez réagir.
Oui, je réagis parce que il faut quand même pas oublier que l'agression sexuelle touche à un domaine au domaine de l'intime. Vous venez pas porter plainte parce qu'on vous a volé votre sac à main, même si c'est très traumatisant, c'est une agression, c'est de la violence. Mais là, c'est le plus intime. Donc, c'est difficile d'en parler, déjà. Et puis, en plus, il y a toute une question de sa propre culpabilité, parce que le regard de l'autre, c'est ce qu'on craint. Et on craint aussi le regard de la personne qui vous accueille. Moi, j'ai des tas de témoignages de femmes ou même de jeunes gens, hein, je veux dire, on va pas... Mais à qui une des premières questions, c'est « Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire avec ces gens-là ce soir-là » Ou « Qu'est-ce que vous aviez comme robe ?» Mais c'est pas de ça qu'on parle. On dit « Voilà, je viens, j'ai le courage de pousser votre porte. J'ai subi une agression très grave et je veux qu'on m'écoute et qu'on m'entende et pas qu'on pense que j'ai quelque chose à voir dans ce qui m'est arrivé. »
Justement, il y a aussi cette question de récolter rapidement des preuves pour potentiellement ensuite aller devant la justice. Et je voudrais évoquer avec vous un dispositif qui est mis en place en Belgique et en Italie. Là-bas, il y a des lieux spécialisés dans les hôpitaux qui accueillent les victimes de violences sexuelles. Et les médecins, les infirmiers peuvent prélever, le cas échéant, des indices directement sur le corps de la victime pour prouver une agression. Si les victimes refusent de porter plainte, ces preuves sont conservées pendant 3 ans. Véronique Pigeon, est-ce que c'est légalement applicable ce type de procédé en France ?
Mais tout dépend. Alors, les commissariats, quand elles accueillent une victime, elles vont l'adresser à un service de médecine légale le plus rapidement possible. Donc, bien sûr, c'est tout à fait, tout est envisageable, mais il faut qu'il y ait des médecins qui soient disponibles. Il faut aussi que les femmes ou les jeunes hommes, les hommes, viennent tout de suite après les faits. Moi, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile de prouver quand vous avez une jeune femme qui a des traces réellement de violence, bon, et où on peut faire des prélèvements, mais quelqu'un qui va porter plainte plusieurs jours, plusieurs heures après. Vous savez, le premier réflexe d'une victime d'agression sexuelle, c'est de se laver. Pour faire disparaître ce qu'elle sent comme quelque chose de très fort et qui est très de preuve de violence. Voilà, alors il y a toute une éducation, je pense, aussi à faire. Et puis, c'est pas évident d'aller voir un médecin, puis de se déshabiller, puis de parler de ce qui vous est arrivé.
Vous avez le cas de clientes qui sont venues vous voir sans même avoir déposé plainte, sans même avoir entrepris la moindre démarche?
Mais bien sûr, oui. Bien
sûr. Et donc, ils viennent vous parler?
Oui, et puis vous savez, quand on parle avec des femmes, très vite, quand on commence à être dans le domaine de l'intime, je suis très frappée de voir le nombre de femmes qui parlent d'agressions sexuelles qu'elles ont vécues, et parfois très graves, quand elles étaient très jeunes, même moins jeunes. Moi, le dernier cas que j'ai vu, c'est une femme de 40 ans qui a été victime d'un viol au GHB. Donc voilà, c'est bien sûr, bien sûr.
Alice Saint-Benjamin, je vous vois réagir.
C'est 80% à peu près des personnes qui viennent nous voir. Hein, c'est que la première démarche de dépôt de plainte n'a pas encore été entamée. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce travail d'avant le dépôt de plainte. Et donc on est là, on voit. Alors nous accueillons que des femmes, mais on les voit régulièrement avant pour préparer justement ce dépôt de plainte. Alors et du coup, les partenariats avec les avocats permettent aussi ça, de parfois faire un pas de côté, aller voir un avocat pour préparer un petit peu le terrain, et c'est tout ce travail de préparation avec aussi, j'en profite pour dire le partenariat qu'on a aussi avec AIV, Aide Information Victime, qui est très présente aussi dans les commissariats et bureaux de police, pour justement tout ce passage d'avant la plainte, quoi.
J'en profite pour rappeler un chiffre, une femme sur 10 qui est victime de viol ou de tentative de viol, seulement une femme sur 10 dépose plainte, mais je voudrais qu'on aille justement après la plainte cette fois, si elle a été déposée. Passer devant un juge et potentiellement donc se retrouver face à son agresseur, c'est aussi ça le frein pour certaines victimes, Alice Saint-Benjamin ?
Oui, c'est effectivement le frein. C'est aussi... alors, je reviens juste quand même un tout petit peu avant sur la question de la plainte. C'est, par exemple, aujourd'hui, nous, ce qu'on préconiserait, c'est qu'on puisse, en tant qu'association et établissement social, pouvoir accompagner, en fait, physiquement, que les travailleurs sociaux qui ont déjà entendu madame un petit peu mettre des mots sur ce qui s'est passé, accompagner physiquement sur le dépôt de plainte et pouvoir être là vraiment dans une présence accompagnante. Aujourd'hui, le dépôt de plainte ne le permet pas, et on le comprend aussi lié à la procédure du dépôt de plainte, mais c'est tout cet accompagnement-là aussi qui doit se déployer.
Je voudrais qu'on écoute Colline Bourré, qui est membre de Nous Toutes 38. C'est le mouvement qui défilera demain, notamment à Grenoble, pour manifester contre les violences faites aux femmes. Elle nous explique combien la lenteur des procédures peut aussi être un frein.
Ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué d'avoir une preuve comme quoi c'est vraiment passé. Donc en fait, il faut aussi se poser la question de quelle considération on apporte aux victimes et quelle confiance on leur donne dans l'établissement de ces procès. Aujourd'hui, si votre procès il a lieu 6 ans après la date de votre agression ou de votre viol, on vous dit « mais c'était à quelle date ?» Si vous n'êtes pas capable de ressortir la date exacte du jour où vous avez été agressé ou vous avez été violé, on vous dit que vous mentez.
Donc il est 16h52 sur Radio Campus Grenoble. Notre débat sur la justice face aux violences sexuelles se poursuit. Donc Véronique Pigeon, donc je le rappelle, vous êtes avocate au barreau de Grenoble. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une procédure spéciale dans ce type d'affaires pour accélérer justement le passage devant le juge ?
Oui, mais ce que dit notre interlocutrice, c'est pas ça. Elle dit quel est l'intérêt finalement de porter plainte 6 ans ou 10 ans après les faits, et si je dis pas exactement le jour où ça s'est passé, etc. On me traite de menteuse. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que quand même, à partir du moment où on a eu accès à un juge, il y a des tas d'éléments qui font que on croit une... Il faut pas être aussi manichéen et aussi simpliste. Quand vous avez une jeune fille qui vient dire j'ai été violée par mon beau-père pendant X années, eh ben on fait une enquête et puis on s'aperçoit que à ce moment-là,
c'est parfois dur de récolter des preuves aussi.
On trouve des preuves parce que on a vu que la jeune fille, eh ben elle est devenue boulimique ou anorexique ou elle a eu plein de problèmes à l'école ou elle s'est confiée à d'autres camarades. Et puis il y a aussi des expertises psychologiques. Et puis moi je crois beaucoup au procès. Et j'ai récemment défendu une jeune femme qui justement avait été agressée sexuellement par son beau-père. Je vous assure, elle est restée 2h30 à la barre. Et si elle n'avait pas été là, je crois qu'il aurait peut-être été acquitté, c'était aux assises. Mmh. Mais voilà, elle avait son témoignage et était vrai. Voilà.
Le temps presse déjà et je voudrais qu'on passe aussi à la question de l'accompagnement des victimes après un jugement. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour ces victimes, Alain Saint-Janin, comment on peut les accompagner après le jugement?
Bah nous, là, c'est tout notre travail d'accompagnement social. Donc, je parlais tout à l'heure de la mise en sécurité à travers l'hébergement. On propose un accompagnement social pendant environ 18 mois pour qu'après, on puisse repartir vers un logement ordinaire. Et voilà. Et donc, tout l'accompagnement social est fait par les travailleurs sociaux sur les différentes démarches inhérentes aux problématiques financières, aux problématiques de se retrouver à un moment donné isolé et réouvrir des droits, problématiques aussi professionnelles. Donc ça c'est tout le travail que l'on fait d'accompagnement pour...
Et vous estimez être assez soutenu dans ce travail-là ?
Alors on est soutenu sans doute. Alors après ce que je peux dire quand même, hein, c'est que je j'ai un œil aussi du côté du 115 de l'Isère et on a beaucoup de demandes du côté du 115 de l'Isère pour des demandes en hébergement d'urgence et dans le cadre des mises en sécurité. Donc il y a quand même une demande qui est là aujourd'hui qui est pas complètement pourvue au niveau de l'offre d'hébergement qui est proposée.
Juste une dernière question. Je voudrais poser à vous, Maître Pigeon. Aujourd'hui, le droit français, il est assez équipé pour faire face à toutes ces problématiques.
À partir du moment où on a accès à un juge, oui, le droit français le permet. Mais toute la question, c'est ce qu'il y a avant, parce que
c'est là qu'il peut y avoir des améliorations.
C'est très dur de se faire entendre.
Et puis la prise en charge aussi du psychotraumatisme, enfin qui est aussi importante après ces questions de violence sexuelle.
Ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci à tous pour ce débat.
Merci à vous Aurélia, merci à nos invités Maître Pigeon
merci
et merci à Alice Santin-Janin.
Merci.
Je vous rends le micro Aurélia.